Maxime Pascal, comment vous avez mis un pied dans la musique ?
Je crois que j'avais le pied dans la musique dès le départ, puisque mes parents sont musiciens, en fait. Donc du coup, je suis né dans un bain de musique. Mon père est tromboniste de jazz Nouvelle-Orléans, du vieux jazz traditionnel. Donc j'ai entendu ça beaucoup quand j'étais tout jeune, tout enfant. Et ma mère, elle est enseignante, elle est professeure de musique dans un collège et professeure de piano aussi. Donc du coup, j'ai baigné là-dedans très tôt.
Donc c'est naturel.
Ça s'est fait de manière naturelle. J'ai donc commencé la musique vers 4-5 ans. J'ai joué de pas mal d'instruments, du violon, du piano, de la batterie. Après j'ai fait le conservatoire, donc bon, enfin, j'ai toujours fait de la musique en fait.
Conservatoire de région, Paris.
J'étais dans une toute petite école de musique à Carcassonne, là où j'ai grandi. Après j'ai fait une apparition au conservatoire de Tarbes et de Bayonne, et ensuite je suis allé assez tôt à Paris pour étudier, et donc au conservatoire de Paris.
Et alors sur une classe instrumentale ?
Enfin moi je fais du violon en fait, j'ai joué du violon pendant longtemps. Là j'en fais plus trop parce que maintenant je fais beaucoup de concerts, donc j'ai plus trop le temps de jouer. Et j'étais au conservatoire de Paris dans les classes d'érudition, l'écriture, analyse, orchestration. J'ai fait la classe de direction de François-Xavier Roth, plein de choses très réjouissantes comme ça.
Alors les classes généralistes, un peu historique de culture, et puis ensuite progressivement la direction alors.
Oui, c'est ça. Je suis vraiment passé par les classes qui sont des classes traditionnelles de l'enseignement français, c'est-à-dire les classes héritées de Messiaen, notamment les classes d'harmonie, de contrepoint, de fugue, aussi donc l'orchestration. Ce sont des classes qui dispensent un enseignement spécifiquement français.
Et là, vous avez trouvé vos copains de composition ?
En fait, c'est là que j'ai rencontré au conservatoire et même un peu avant toutes les personnes avec qui j'ai créé le balcon ensuite, donc qui constituent aujourd'hui mon entourage. Donc il y a des compositeurs, des instrumentistes, des ingénieurs du son, plein de gens que j'ai rencontrés là-bas, étudiants, avec qui on a lancé une grosse machine et avec qui je travaille. Aujourd'hui c'est mes amis et c'est mes collaborateurs.
Le balcon vient comment ? On voit les références.
Ça vient de la pièce de théâtre de Jean Genet. Quand on cherchait le nom du balcon, c'était il y a un moment. Moi, je sais pas pourquoi, je tenais beaucoup à la référence littéraire. Je trouvais qu'il y avait ce livre de Genet sur mon étagère, Le Balcon. Et donc Genet, qui est un auteur que j'aime vraiment beaucoup, et je trouvais que ça marchait très très bien. Donc ça a été immédiat. Et je savais pas à ce moment-là qu'il y avait un opéra de Peter Hedwig sur justement la pièce de Jean Genet. Donc la référence, elle vient directement de Jean Genet.
Et donc la littérature est très importante dans vos vies ?
Oui, bah comme chez beaucoup de gens, je crois. Et ça nourrit beaucoup, quoi.
Au lycée ?
Ah ouais, bah depuis tout petit, voilà, je lis beaucoup. je lis plein de choses. Ça me nourrit beaucoup. Ça me permet en plus de sortir de mon quotidien un peu laborieux parfois. C'est vraiment le truc qui me fait tenir de lire.
Vous avez travaillé avec François-Xavier Roth. Comment s'est fait la rencontre avec lui ? Il y a eu le coup de foudre dans le travail tout de suite ?
Ah bah c'est un personnage impressionnant. Hein. Moi je l'ai rencontré parce que je suis rentré dans sa classe en fait. Bah c'est vraiment un personnage qui a un charisme très fort. Moi je me souviens la première fois que je l'ai vu, c'était au concours d'entrée. En fait je passais le concours d'entrée en direction. En fait donc je suis rentré dans la salle pour diriger l'orchestre et lui était pas là. Il devait être sorti pour faire je sais pas quoi. Et en fait il est re-rentré dans la salle. Et c'est vrai que on dit souvent on les mesure juste quand ils rentrent, quand ils montent sur le podium ou quand ils rentre dans une salle, et là c'était ça quoi, il est rentré dans la salle et d'un coup il dégageait quelque chose d'assez incroyable, d'assez surprenant, donc ouais c'était impressionnant ouais, la première fois que je l'ai vu.
La notion de chef d'orchestre a beaucoup évolué quand on regarde dans l'histoire de la musique, du côté charismatique à, je pense, Karajan, et il fermait les yeux, ses gestes étaient très limités. Ce modèle-là, et maintenant, on a plutôt changé, j'ai l'impression, comme modèle.
Karajan a fait beaucoup évoluer le métier de chef d'orchestre parce qu'il a fait beaucoup évoluer l'orchestre. En fait, il a vraiment inventé un orchestre qu'il avait en rêve, qu'il avait en tête. Il a vraiment conçu l'orchestre du 20e siècle. Il l'a fait évoluer, donc du coup, ça nécessairement amener une nouvelle manière de diriger, de penser la direction, le rôle du chef d'orchestre. Et il y a beaucoup de chefs qui ont fait évoluer Pierre Boulez évidemment, des gens comme John Elliott Gardiner aussi, Arnon Cour, même quelqu'un comme Valéry Gergiev aussi. Enfin c'est des gens qui font vraiment évoluer, et c'est bien que ce métier, ce rôle soit en mouvement aussi, donc ça c'est des gens qui contribuent à ça. Ouais.
Et quelle est cette qualité qu'il dégage?
En fait, moi, ce qui me plaît, c'est ce sont les créateurs. En fait, c'est ceux qui ont inventé vraiment leur orchestre, quoi. Comme je disais, Karajan avec les Berliner Philharmoniker, Pierre Boulez avec l'ensemble intercontemporain, ou John Elliott Gardiner avec l'orchestre révolutionnaire et romantique. En fait, c'est-à-dire, c'est pas juste que ce sont des chefs qui ont créé des orchestres, ce sont des chefs qui ont inventé des manières de jouer nouvelles, des manières de concevoir l'orchestre, des manières de jouer la musique et le répertoire. Ils ont inventé quelque chose de complètement nouveau. Ce sont des créateurs, en fait. Ça, c'est vraiment cet aspect-là qui m'intéresse et que j'aime bien chez les chefs en général. Je suis pas un grand admirateur, je suis pas un collectionneur de vidéos de chefs, ou de versions. Je suis pas un grand admirateur des chefs en général. C'est pas un truc qui me passionne. L'historiographie de la direction, je suis pas extrêmement renseigné. Juste, il y a des choses qui me fascinent et qui me parlent directement dans ces cas-là. Pour ces chefs-là, mais c'est vraiment cette idée d'architecte, de constructeur de quelque chose de nouveau. Ouais, ça, ces gens-là m'impressionnent beaucoup.
Et donc, quand vous avez créé le balcon, l'idée qui vous est venue, c'est donc de créer aussi un orchestre. Et qu'est-ce que vous cherchiez dans la création d'un orchestre, d'un ensemble de musique contemporaine, puisque c'est quand même un ensemble de musique contemporaine, qu'est-ce qui vous attirait dans cette configuration?
Moi, j'avais dans l'idée, avec plusieurs amis à moi, de créer un orchestre. Voilà, parce que déjà vous disiez ensemble de musique contemporaine. Enfin voilà, aujourd'hui on a sectorisé, on a catégorisé l'offre marketing. Donc il y a les ensembles de musique baroque, les ensembles de musique contemporaine, les orchestres symphoniques. Dans ma tête, le mot orchestre, il a des résonances très différentes, je pense, de ce qu'on peut entendre un peu partout. Déjà dans mon idée, l'idée de créer un orchestre, c'était de créer un orchestre au sens un peu antique du terme, c'est-à-dire l'orchestre du village, c'est-à-dire voilà, il y a tout le monde qui vient jouer, il y a plein d'instruments, on sait pas ce qu'il y a dedans, mais voilà, c'est l'orchestre du coin. Moi, je viens donc du sud, dans l'été, il y a ce qu'on appelle les orchestres de bal qui jouent partout comme ça. On dit je vais écouter l'orchestre, mais c'est l'orchestre, c'est juste il y a un côté un peu magique de des gens qui se regroupent pour faire de la musique, ça y est, c'est un orchestre. Il y a pas une catégorisation avec un nombre de musiciens, un répertoire. J'avais envie de créer un orchestre avec cette idée de la géométrie variable dont on a hérité. Donc ma génération, notamment donc avec tous les apports de l'ensemble intercontemporain, le London Sinfonietta, l'idée de la géométrie variable, de pouvoir vraiment utiliser des instrumentistes en fonction des programmes qu'on joue, et que cet orchestre-là soit sonorisé, en fait. C'était un truc que j'avais en tête, comme ça, c'était une espèce de rêve d'utopie. En fait, très vite, aujourd'hui, on se rend compte que le balcon, c'est un orchestre à géométrie variable, et donc du coup, dedans, il y a des instrumentistes, des chanteurs, des ingénieurs du son, des informaticiens, on a même une galaxie de metteurs en scène avec lesquels on travaille, parce qu'on fait beaucoup d'opéras. En fait, il n'y avait pas l'idée nécessairement de vouloir se différencier ou quoi que ce soit, mais vraiment l'idée de faire quelque chose de très simple et de dire voilà, c'est un orchestre, c'est cool, ça peut être n'importe quoi. Donc l'orchestre, ça contient tout, en fait. Quand on dit aujourd'hui l'orchestre d'une ville, ça devrait être pas juste quelque chose de d'extrêmement formaté, d'extrêmement standardisé avec un nombre de musiciens. Non, l'orchestre, c'est le lieu où se passe l'événement musical principal, quoi. C'est l'orchestre de la ville, c'est là qu'on va pour entendre la musique vraiment. Et du coup, c'est vraiment cette idée-là, je pense, qui nous a conduit à créer tout ça.
Une dimension politique, là, quand j'entends orchestre, je pense tout de suite, me dis, tiens, pourquoi pas Agora?
Ce qui est sûr, c'est que c'est venu d'un geste de rejet et même d'un geste belliqueux de guerre, d'entrée en guerre contre les institutions qui nous ont en même temps créés, puisque moi je suis quelqu'un de issu de l'académie, hein, du Conservatoire de Paris, un vrai rejet du monde institutionnel, du monde très standardisé, du marketing, de la marchandisation. Donc ouais, peut-être un peu politique, je sais pas. Ça, je me pose pas trop la question, en fait. En fait, l'idée, c'est que tout ce qu'on fait avec le balcon, même si il y a une grande réflexion, il y a une pensée vraiment sur tout ce qu'on fait. On réfléchit beaucoup, on travaille vraiment beaucoup. Mais l'objet principal, il est quand même, il est vraiment instinctif et instantané, quoi. Il n'y a pas au départ de justification à donner à quoi que ce soit. On fait les choses parce qu'on veut les faire. Il y a une envie, il y a du désir, de l'envie de mettre les choses en mouvement de manière instinctive comme ça. Donc voilà, on y va, on fait les choses et il n'y a pas de manifeste, il n'y a pas de On n'a pas rédigé un papier avant en disant voilà, le balcon ça va être ça, le projet c'est ça. Donc après oui, il y a peut-être un regard, il y a une analyse à apporter là-dessus, un regard sur tout ça. Voilà, qui peut il y a une évidemment aujourd'hui on se rend compte de l'aspect historique du truc, de où ça se place par rapport dans l'évolution de l'orchestre symphonique de en général en France, on a conscience de tout ça. On peut porter un regard, une analyse qui soit sociale, politique aussi, notamment parce qu'on m'a fait remarquer très, très justement tout récemment que la création du balcon donc, coïncidait exactement avec la crise des subprimes. Donc on est vraiment un orchestre qui s'est créé, un orchestre de crise, quoi, un orchestre qui s'est créé dans un climat crise et post-crise, comme ça, qui s'est développé dans un climat post-crise. Donc ouais, y a bien sûr qu'il y a des tenants, des aboutissants, il y a un regard, mais il faut quand même pas oublier que tout ce qu'on fait, et ça pour le coup c'est revendiqué, on fait les choses parce qu'on a envie de les faire. Et puis point, quoi, c'est comme ça.
Et vous avez choisi l'amplification. Qu'est-ce qui vous a amené à choisir l'amplification?
C'est un choix qui n'est pas issu d'une réflexion. C'est un choix qui était nécessaire. Il y avait une nécessité pour moi de raconter en tant qu'interprète les histoires de cette manière-là, quoi, de parler aux gens, de mettre en dialogue le public, les interprètes, l'œuvre, le texte de cette manière-là. C'était comme ça que je depuis très longtemps je voyais le spectacle, que j'entendais la musique, et c'est comme ça que je voulais raconter les choses. Donc avec la sonorisation, puisque le balcon, donc on a un autre propre dispositif de diffusion qu'on installe dans les lieux où on va, tout en aussi utilisant les installations en fixe, donc les haut-parleurs, pour dire simplement. Et on a tout un parc microphonique, il y a un micro sur chaque instrument, sur chaque chanteur, et on sonorise tout ce qu'on joue. Et en même temps, parfois ça nous arrive de pas sonoriser parce que nos préoccupations liées à tout ça se portent sur d'autres éléments, et que enfin il y a pas, le paramètre est pas non plus bloqué. Mais il y a de très très tôt cette nécessité et cette envie complètement injustifiée au départ de vraiment jouer la musique de cette manière-là.
Et vous parliez de l'institution. Maintenant, elle participe à la vie de l'ensemble, elle intervient par les subventions.
Nous, on travaille avec beaucoup de gens qui nous suivent. On travaille avec notamment donc la Fondation Orange, qui est notre mécène principal. On travaille avec la Fondation Saint-Gé-Polignac aussi, où on est en résidence. Et puis, pas mal d'institutions dont on est partenaire. Le Théâtre de l'Athénée, le Festival de Saint-Denis, l'Opéra de Lille. Ce sont des gens, donc ce sont des institutions qui ont un rôle très important dans le balcon. En fait, on s'est rendu compte que les institutions... En fait, c'est le modèle qui nous convient pas du tout en fait pour le balcon. Et d'ailleurs, toute la structuration du balcon, que ce soit la structuration financière, technique, sur le plan de l'organisation, toute une évolution qui se fait aussi dans l'idée de pas s'institutionnaliser. C'est vraiment un des objectifs du balcon, c'est justement de pas s'institutionnaliser. Et c'est de cette manière-là qu'on travaille, et ça marche plutôt assez bien. Et aussi, ça passe par le fait de travailler avec les institutions, puisque l'institution, c'est, je vais dire, appauvrissant, je trouve, artistiquement, aujourd'hui, même si ça fait un peu, voilà, l'institution, c'est facile à dire comme ça, mais très techniquement, c'est vrai, la manière dont c'est organisé, dont c'est standardisé aujourd'hui, ça nuit globalement à pas mal de choses. En revanche, dans ces institutions-là, même les pires, bah, il y a toujours des gens, et les gens, globalement, c'est des gens bien, et il y a des gens qui sont super à l'intérieur, qui font du boulot vraiment vraiment super, qui font artistiquement un travail remarquable, et des gens qui s'intéressent beaucoup à ce qu'on fait, des gens qui sont super et avec qui on a envie de travailler. Et donc nous on en ce moment on travaille beaucoup sur l'idée de comment aussi travailler avec les institutions, travailler avec les gens directement, comment s'appuyer sur l'idée que quand on travaille avec une salle, avec un festival, avec une institution qui est un financeur par exemple, comment s'appuyer sur le fait qu'on travaille avec des gens, des humains avec qui on a des affinités, et que ces gens-là ont des envies de travailler avec nous, et on essaye de dire comment on fait pour travailler ensemble, trouver des nouvelles manières de travailler, d'exprimer tout ça, parce que c'est con à dire, mais les gens sont, il y a des gens super partout, quoi, qui ont des envies vraiment parfois très très étonnantes, et voilà, il faut stimuler ça, et même à l'intérieur de l'institution, c'est quand même possible d'imaginer des choses avec les gens, quoi, de faire bouger un peu tout ça.